Aujourd'hui, alors que nous progressons, eh bien, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi sur la sécurisation de l'alliance. Ça peut sembler énigmatique comme ça, mais je suis persuadé que dans une bonne demi-heure de ça, on saura de quoi on parle et on aura fait un bout de chemin ensemble. J'ai goûté à la vie sans Dieu, ça commence à faire longtemps maintenant, mais j'ai goûté à la vie sans Dieu, j'ai goûté à la vie avec, et vous savez, de temps en temps, lorsque des épisodes de difficultés viennent, lorsque des tentations viennent, lorsque des mensonges prennent prise dans nos cœurs, il y a des moments de réflexion qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, pour dire, est-ce que je continue? Ou est-ce que je continue aussi fort? Ou est-ce que je continue avec autant d'implication, avec autant de rigueur? Et c'est quelque chose qui s'est produit dans le cœur de beaucoup de personnes du temps de Jésus. Alors qu'une grande foule le suivait, Jésus était suivi par ses disciples les plus proches, et puis derrière les disciples les plus proches, il y avait les disciples un peu moins proches. Et puis il y avait, on dira, une troisième catégorie de suiveurs, et peut-être même une cinquième, une sixième, quatrième, cinquième, sixième. Puis un jour, ceux qui suivaient un petit peu de loin on a entendu des paroles, mais vous savez, quand on suit de loin, on entend un bout, on n'entend pas le reste, et puis il y a des choses qui semblent déséquilibrées. Puis il y en a qui sont venus voir Jésus, qui ont dit, « Bon Seigneur, on t'a suivi, on a vu des belles choses, mais là, ça commence à bien faire. Tu dis des choses dures, difficiles. Alors, excuse-nous, mais on laisse tomber. » Mais il y a toujours eu ceux qui marchaient aussi proches que possible de Jésus. Il y a toujours eu ce groupe-là, et Jésus s'est tourné vers eux et leur a dit, « Est-ce que vous aussi, vous ne seriez pas tenté de partir aussi. Vous avez votre liberté. » Jésus leur a pas dit, restez, restez. Si vous restez, je vais vous faire des miracles. Si vous restez, je vais faire apparaître comment on appelait ça, des drachmes, des statères, des pièces d'or et d'argent dans vos porte-monnaie, tout ça. Mais Jésus leur a dit, vous ne voulez-vous pas partir aussi? Et puis, les disciples se sont tournés vers lui et disaient, non. Ils ont dit, non. On veut pas partir. Nous, on t'a suivi de près. On a collé à tes enseignements, on n'a pas entendu que la moitié de tes phrases, on a entendu l'ensemble de ton enseignement, et nous avons vu, et nous avons connu, expérimenté, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, on reste! Et vous savez, on peut faire encore mieux que de rester ce matin? Mieux que rester? Ben, on peut aller encore un peu plus loin sur le chemin, marcher un peu plus vite, gagner peut-être une ou deux catégories parmi ceux qui suivent le Seigneur Jésus et progresser. Et on peut progresser dans toutes les catégories. Et on peut progresser aussi dans la marche du couple à la suite de Dieu ou dans le plan de Dieu. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou le plan de Dieu pour une vie sentimentale épanouie. C'était le titre général qu'on avait donné à la série d'interventions à laquelle plusieurs d'entre vous avaient assisté du début peut-être jusqu'à la fin. Avec toute une part de préceptes divins et aussi de sagesse humaine pour une vie sentimentale, fructueuse et épanouie. Et là, dans ce chapitre de la sécurisation de l'alliance, j'aimerais vous amener à gratter un petit peu. Vous êtes mariés? Oui, on est mariés. On se souvient des souvenirs de mariage. On a dans la maison des photos du jour du mariage. Mais nous ne nous sommes pas, pour beaucoup, porter longtemps sur la valeur du mariage, sur ce que ça signifie, sur ce que ça implique, jusqu'à où ça pourrait nous emmener, cette affaire de mariage. Et j'aimerais qu'on puisse s'y arrêter. On peut lire dans un magazine chrétien le texte que je vous lis. Ce qui distingue le plus radicalement le couple de l'an 1900 du couple des années 2000, ce sont les motifs mêmes du mariage. La révolution a été douce, mais le résultat est incontestable. Les raisons de l'union conjugale ont considérablement évolué au cours du siècle. Le phénomène a tout d'abord été diffus, discret, pour finalement s'imposer dans les années 50, après des années de privation et de séparation, ce qui a poussé les hommes et les femmes à s'unir, ce qui a fait irruption dans la vie des couples et a semé le désordre dans les vies et les cœurs, c'est, vous ne devinerez jamais, c'est l'amour. La conception moderne de l'amour, tout du moins. Et j'ai été surpris, en multipliant les échanges, les contacts avec des personnes qu'on appellera un petit peu, vous savez, notamment dans le cadre pastoral, de conseillers conjugaux, etc., des spécialistes de la vie conjugale, j'ai été surpris de voir que une très grande proportion des conseillers conjugaux sont fâchés, tout rouges, contre Roméo, Juliette, Shakespeare et toute cette notion très émotive, émotionnelle de l'amour. Ce sont des gens qui en veulent à Shakespeare ardemment parce que les concepts et les rêves et les choses comme ça qui ont été présentées, agitées, promises, sont à la source de beaucoup de ruptures, de problèmes, d'insatisfactions, de ruptures et de tout ce que vous voulez. Alors le mariage, ce n'est pas l'amour. Le mariage, ce n'est pas l'amour. Et l'amour n'est pas le mariage non plus. L'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est un état de fait. Et vous savez, l'amour, c'est un sentiment qu'on cultive. Ce n'est pas seulement un sentiment qu'on ressent. C'est prouvé scientifiquement dans les premières mois et années de vie amoureuse. Il y a des phénomènes particuliers qui se passent même dans le cerveau. Il y a certaines zones qui s'inhibent, d'autres qui s'animent, et ça donne un sentiment particulier, une complicité particulière, un vécu émotionnel extrêmement fort dans les premiers mois et années de vie amoureuse. Et puis, ça va s'éteindre. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que Dieu a fait les choses pour que le jeune couple, qui est plein de différences, qui a plein d'obstacles à surmonter, puisse être aidé dans son surpassement de ces obstacles. Et puis, ce faisant, pendant ces mois et premiers mois et années, ils vont pouvoir fonder tout un patrimoine commun de souvenirs, de pensées, de moments forts. Et puis, ça va déjà les unir. Et puis, quand il faudra affronter les choses de la vie, eh bien, il y aura cette base d'unité pour être plus fort et enjamber les uns après les autres les obstacles qui pourront se présenter. Mais ce n'est que passager. Puis après ça, la Bible, elle nous demande de cultiver, de développer l'amour. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et je vais le dire comme ça, c'est pas français, mais pour bien exprimer l'idée qu'on a pu partager hier aussi, il va se attacher à sa femme. Ça va être une démarche personnelle. C'est à moi de me attacher à ma femme, de veiller à renouveler la flamme, à nourrir le feu, à provoquer les circonstances qui sont bonnes pour resserrer toujours plus les liens. C'est ma et votre responsabilité. Il n'est pas question de voir si aujourd'hui on a le feeling. Et ça, c'est cette conception-là de voir si Roméo aime toujours Juliette, si Juliette est toujours amoureuse de Roméo, si ça plane toujours entre eux. C'est une conception qui est très, très, et qui cause beaucoup plus de problèmes que d'avantages, qui apporte beaucoup plus de problèmes que d'avantages dans les couples. Le mariage n'est pas l'amour. L'amour est un sentiment que nous sommes appelés à cultiver, dont nous sommes responsables, mais le mariage n'est pas un sentiment. Le mariage est une alliance forte de deux personnes, ou de parties, mais là on parle de deux personnes, qui vont s'allier ensemble pour former une nouvelle entité. Et il y a évidemment derrière la notion d'alliance, la notion de lien, pas vrai? Et je pense que c'est ça qui pose problème à notre génération. Amour, oui, vivre ensemble, oui, mais alliance, oui, je suis d'accord avec A et ce, mais pas liance. Le lien qui est au milieu, ça va pas. Alors, on va essayer de retravailler ça. On ne veut pas de lien. Le lien, ça sous-entend renoncement à certaines libertés. Même si on sait qu'en renonçant à certaines libertés, on en découvre d'autres. On va pouvoir marcher sur un autre chemin. Il y a des avantages à accepter l'alliance. Ecclésiaste 4, versets 9, 10, 11 et 12. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que deux sont plus productifs. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et c'est ce qui se passe dans les couples où l'alliance n'a pas été concrétisée. Il y en a un qui tombe, Il y a un second, mais le second, il est pas lié, c'est tombé, c'est pas de chance, c'est seulement si tu tenais debout, on marchait ensemble, hein, c'est fini. Mais s'il tombe, s'il y a un qui tombe, l'un relève son compagnon, ils sont donc mieux sécurisés dans leur marche. De même, si deux dorment ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et là, ça nous dit que quelqu'un qui accepte l'alliance va apporter aussi un confort à sa vie. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Ceci sous-entendant bien sûr que deux sont plus forts que un. Voilà très succinctement déjà quatre avantages au fait d'être à deux et de s'allier ensemble pour affronter la vie, pour mieux travailler, pour mieux se sécuriser, pour avoir une vie plus confortable et puis être plus fort face à l'adversité. Et le concept moderne de la relation homme-femme accepte la présence, disons, de l'autre et la proximité de l'autre, mais pas le lien. C'est comme des compagnons de cordée qui sont partis à l'assaut d'un pic rocheux et ils veulent faire le chemin ensemble, mais ils veulent pas la corde entre les deux. Il y a effectivement une partie de partage, mais il y a une solitude malgré ça. C'est une aventure commune, mais chacun a ses risques et périls, parce que à tout moment, tout peut arriver et pas moyen de compter sur l'autre. Parce que oui, on est ensemble, oui, on est proche, oui, on va dans le même sens, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'alliance entre nous. Et c'est terrible, terrible pour un époux, mais particulièrement terrible pour une épouse, de vivre un mariage qui n'a pas été perçu et construit comme une vraie alliance selon le plan de Dieu. Une alliance que Dieu veut voir fondée sur le don de soi. C'est pourquoi nous le disions vendredi soir, cette alliance ne devrait jamais être fondée sur la base d'une crise, par exemple une crise familiale. Il y a divorce dans ma famille, je veux dire mes parents divorcent par exemple, ou bien mon frère dont je suis tellement proche, ou ma sœur dont je suis tellement proche, est en train de divorcer, ça ébranle toute ma vie, et là, dans ce cadre-là, je vais aller m'attacher à quelqu'un pour essayer de retrouver un petit équilibre. Crise familiale, il y a un deuil, mon père sur qui je comptais tout le temps, ma mère sur qui je comptais tout le temps, est parti vers le Seigneur, oui, a quitté ce monde. Et il me manque cet appui, il me faut quelqu'un, je vais m'attacher à quelqu'un, je vais me marier avec quelqu'un parce que j'ai besoin de retrouver un père ou une mère. Ce sont de mauvais motifs. On ne peut pas fonder une alliance sur un contexte de besoin. Besoin parce que je suis en crise familiale, besoin parce que je suis en crise identitaire, j'ai raté ma vie professionnelle, je me sens plus, je sais plus qui je suis, je vais me raccrocher à quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est, et ça va remplir un besoin. Ou bien, je peux pas non plus construire ça dans un contexte de crise affective, je suis seul, je déprime. Ou bien, j'étais avec quelqu'un et j'ai rompu récemment, je supporte pas d'être seul, il me faut quelqu'un. Qui c'est qui passe par là? Toi, allons-y. Montons une histoire d'amour ensemble, on est sûr que ça va marcher. Déracinement géographique, panique devant l'idée menaçante du célibat à vie. Et il y a diverses situations de crise qui font ressortir des besoins énormes chez nous. Mais le besoin personnel ne peut pas être le fondement de l'alliance. C'est pas ça. L'alliance est censée être fondée, selon Dieu, sur le don de soi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas pris quelque chose par amour, il a donné. Et lorsque nous n'avons que quelque chose à prendre, mais rien à donner, nous ne sommes pas bons à marier, ou bien il faut retrouver un équilibre personnel pour retrouver cet état dans lequel on a quelque chose à donner à notre conjoint. L'alliance est fondée sur le don de soi. L'amour a besoin de se donner à l'autre prioritairement. L'alliance fondée sur le don de soi, l'alliance centrée sur l'autre. Se donner pour l'autre, c'est quelque chose de plus naturel pour les épouses que pour les époux, qui sont, excusez-moi mes frères, par tempérament, un petit peu plus égoïstes. Pourtant, la recommandation reste la même. Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est oublié. Il a cessé de vivre pour lui et il a fait tout ce qui était nécessaire pour que l'Église naisse et qu'elle ait tout le patrimoine de connaissances, de puissance, etc. nécessaire pour aller de l'avant et pour se développer. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il est arrivé un temps dans la, si on peut dire ça comme ça, la maturité de la relation entre Christ et l'Église pour laquelle il allait mourir, il est arrivé un temps pour Christ où ce n'était plus lui qui comptait. Et il doit arriver le plus vite possible un temps pour l'époux où ce n'est plus lui qui compte. Un mariage, une alliance fondée sur, centrée sur l'autre, c'est l'autre qui compte. Et si les deux sont fondés sur l'autre, tout s'équilibre et devient extrêmement agréable à vivre et ça devient une belle aventure. Et c'est aussi une alliance qui doit être réciproque. On n'est pas en bord de mer directement ici à Nantes, hein, et région. Mais là où je suis, à Lannion, sur la côte, on va se promener, puis il y a ce que tout le monde appelle les chapeaux chinois. Vous voyez ce que c'est? Les berniques. Ces petits coquillages que vous pouvez parfois surprendre quand vous les voyez un petit peu décoller. Si vous allez très vite, vous pouvez les décoller, mais si vous avez le malheur de leur faire percevoir votre présence, vous ne les aurez jamais. Jamais, jamais. Et la bernique, c'est un coquillage, une vraie ventouse, va se coller au rocher. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il est collé au rocher, il n'y a aucune prise, vous ne pouvez pas passer un ongle ou quoi que ce soit en dessous. Il a fait sa place pendant des mois, des années, le rocher même parfois porte sa trace, et c'est une alliance. Le problème de cette alliance-là, c'est qu'elle ne relève que de l'initiative de la bernique. Le rocher, lui, fait rien du tout. Et c'est pas censé être comme ça non plus dans le mariage. Et s'il y a un seul des deux conjoint qui fait des efforts, qui s'investit pour le mariage, le danger est que le travail devienne pénible et difficile. On retombe finalement dans le même cas que celui dont l'apôtre parle lorsqu'il dit « Ne vous mettez pas avec les étrangers sous un joug, avec des infidèles sous un joug étranger. » Un joug où deux sont ensemble, et vous savez, si vous mettez sous un même joug avec deux places comme ça, un bœuf et un âne qui essaient de travailler ensemble, mais il y a un qui travaille fort, l'autre qui n'est pas la même force, pas la même vision, ça va être terrible, et le plus faible des deux va s'user très vite, et puis même le plus fort ne fera pas le travail qu'il est capable de faire en temps normal. Il y a besoin d'avoir une alliance réciproque. Nous sommes tous les deux artisans de notre mariage, nous collaborons à la réussite de notre mariage. La difficulté, ce qui est dur à assumer, c'est qu'un mariage n'échoue pas seulement quand les deux lâchent, quand les deux liens cèdent, mais quand le plus faible lâche. On est dans cette image de la cordée où les deux montent ensemble pour partir à l'assaut d'un pic rocheux. Et puis il y a une seule corde pour lier les deux, et il y a un nœud de chaque côté. Et puis vous savez, la corde devient inutile, non pas à partir du moment où les deux nœuds sont déliés, mais à partir du moment où il y en a un qui est délié. Elle est là, elle est encore attachée à l'autre, mais puisqu'il n'y a rien au bout de la corde, rien au bout du lien, rien au bout de l'alliance, c'est vain. Et il y a une nécessité aujourd'hui, c'est de sécuriser cette alliance, pour que nous puissions, comme nous le disions tout à l'heure, non pas juste rester dans l'alliance, mais aller plus loin dans le mariage. Et pour développer ce lien, il va falloir aussi apprendre à le protéger. On touche au point un peu de la sanctification, bien sûr, de la gestion des pensées, de ce qu'on met devant nos yeux, de ce qu'on fait entrer dans nos esprits, mais on doit gérer ça. Je suis surpris de voir avec quelle simplicité des chrétiens se retrouvent ensemble pour discuter ou en dehors de l'église, parfois même à la sortie de l'église, pour discuter du dernier épisode de Desperate Housewives. Ça m'atterre, et ça m'affole. Je suis pas facile à affoler, mais ça m'affole de voir ça. Comment est-ce possible qu'on nourrisse nos esprits, nos pensées de ces choses-là? Il y a quoi? J'en ai pas vu un seul épisode entier. Mais j'en ai vu peut-être 10-15 minutes, je me suis fait un avis et j'ai entendu à la radio, aux infos l'autre jour, il y avait un petit survol de tout ce qui allait se présenter, la nouvelle saison de ci, la nouvelle saison de ça qui arrive parce que c'est la rentrée. Et j'ai entendu sur Desperate Housewives, j'ai entendu la présentation de la nouvelle saison qui arrivait. Alors là, le scénariste a réussi à faire vraiment un exploit pour nous plonger encore un peu plus profond. Et on va voir chacune des protagonistes qui va s'enfoncer encore un petit peu plus loin dans son vice, etc. Et moi, j'entends ça. Et après, j'entends les chrétiens qui parlent de ça ensemble. T'as suivi le dernier? Ouais, tu l'as manqué. Et puis ça tombe le jour de la réunion de prière. Aussi en plus. Et vous savez, on a des choix à faire. Et là, dans ce cadre-là, par exemple, tu peux pas faire un arrangement neutre. Soit tu vas dans la prière, dans la présence de Dieu, et tu vas de l'avant. Soit tu vas pas à la réunion de prière, dans la présence de Dieu, puis tu restes devant la série en question, ou d'autres, parce que je connais pas tout, je suis pas très friand de ces genres de séries-là. Mais où tu restes chez toi et tu déclines, tu régresses. Et tu peux pas avoir là dans cette circonstance là un milieu neutre. Ça progresse dans la présence de Dieu ou ça détruit dans la présence de l'influence du monde. Il va falloir protéger l'alliance, éloigner d'elle tout ce qui lui est néfaste, convoitise, les modèles du monde, différentes choses, mais je suis persuadé que chacun sait au fond de son cœur ce qui est favorable ou défavorable à la sécurisation de l'alliance. Maintenant, après avoir dit que l'alliance est effectivement une alliance fondée sur le don de soi, une alliance centrée sur l'autre et une alliance réciproque, j'aimerais m'arrêter plus longuement sur le fait que le mariage, selon Dieu, est une alliance sans fin. Sans fin, et ça veut dire beaucoup, mais quand on le comprend et qu'on l'accepte en connaissance de cause, c'est un changement magnifique qui peut intervenir dans le mariage. Une alliance sans fin. Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On est loin du concept du conjoint jetable ou interchangeable. On est à cette ère-là, nous, on est né au beau milieu de la société de consommation, où tout objet ou service a pour but de satisfaire le client, pas vrai ? Satisfaire le client, vous prouvez pourquoi vous avez raison d'acheter notre produit, parce que ça va vous donner tout ce que vous désirez, même un peu plus encore. Et si quelqu'un n'aime plus un objet, ou bien si l'objet a rendu le service qu'on en attendait, s'il a apporté le bénéfice attendu, ou bien si un nouveau modèle est sorti, ben le fameux objet avec lequel on en a terminé va finir à la poubelle sans aucune marque de considération. C'est un objet, il devait être consommé, il était là pour ma satisfaction, il m'a satisfait, il ne me satisfait plus, je m'en débarrasse. Mais c'est comme tout, ça fait son chemin et tout est lié. Et ce comportement effrayant se retrouve parfois à l'échelle des relations humaines, jusque dans le modèle du couple moderne. Et cette menace latente d'une rupture potentielle, parfois extrêmement, comment dire, instantanée, tout va bien, le lendemain je te quitte. Ah ouais, mais je t'avais pas dit, mais depuis quelque temps, et si et ça. C'est terrorisant. On le disait à l'entrée de ce culte, mais je voudrais pas vivre à l'extérieur des voies de Dieu aujourd'hui. On est si bien dans la maison du Seigneur, on est si bien dans son troupeau, sous sa conduite, sous sa loi, mais sa loi qui nous garde, qui nous enrichit, qui nous équilibre, etc. Et alors cette menace latente d'un rejet ou d'une rupture éventuelle met les deux époux en situation d'insécurité. Est-ce que ça va durer demain ? Est-ce que ça, y en a pour longtemps ? Est-ce qu'il me cache rien ? Est-ce qu'elle me cache rien ? Est-ce que dans son cœur c'est vraiment vrai ? Est-ce que ses propos sont toujours conformes à ce qu'il pense ou à ce qu'elle pense ? Terrible de vivre là-dedans. Et cette insécurité empêche les conjoints de s'investir pleinement dans leur couple. Si vous êtes hésitant dans les possibilités, les opportunités d'investissement que vous avez, vous allez appliquer un principe, c'est quoi ? On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Mais si vous êtes sûr qu'il y a une garantie qui est proposée sur un contrat, sur une assurance, sur un investissement, si c'est garanti que vous savez, que vous êtes persuadé en vous-même que ça vaut la peine, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier. Parce que vous savez que plus vous en mettrez, plus ça vous rapportera à la fin. Et lorsque l'alliance peut être sécurisée, que derrière on peut lui apporter les garanties nécessaires, alors l'époux, l'épouse commence à récupérer des œufs qu'ils n'avaient pas mis encore. Tiens, t'avais tout ça toi ? Ouais, je les avais mis dans d'autres paniers, dans les amis, dans les activités, dans la culture, dans je sais pas trop quoi, mais j'avais des œufs, j'avais pas encore investi parce que j'étais pas sûr. Mais depuis que notre alliance a atteint cette sécurité, eh bien, je suis prêt à tout investir dans notre couple. Et alors le couple va gravir les marches, passer quelques étapes et découvrir d'autres horizons dans la présence de Dieu aussi, parce que c'est ça le plan de Dieu. Lorsque on regarde ce que David dit dans le psaume 16, par exemple, au verset 8, il dit « J'ai constamment, l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Si je peux être sûr qu'il est là et qu'il sera toujours là, je vais de l'avant, je suis battant parce qu'il est là et je tire de lui ma sécurité. » Dans le couple, il y a quelque chose d'équivalent. Mon salut et ma sécurité absolue ne viennent pas de mon épouse. C'est un petit peu vécu différemment dans l'autre sens. L'épouse a besoin d'être en sécurité sous le bras de son époux. Mais j'ai besoin, moi, de trouver ma première sécurité en Dieu. Et étant sécurisé en Dieu, je peux sécuriser aussi mon épouse, sachant que au-dessus de moi, il y a Dieu. Vous savez, c'est comme le centenier qui dit, moi, je suis sous les ordres de quelqu'un et j'ai des soldats sous mes ordres. Et si je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. Parce qu'il y a une chaîne d'autorité. Et il sait que s'il m'obéit pas, il a encore à craindre au-dessus. Mais de la même façon, s'il m'obéit, il attire sur lui la bénédiction de celui-même qui est au-dessus de moi, et peut-être il sera promu à un autre poste plus élevé plus tard. Donc il y a tout ça. Et David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, quand il est là, quand je suis sûr qu'il ne me quittera jamais, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car je sais que tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David qui dit, j'ai une telle sécurité, Seigneur avec toi, que je m'engage à fond. Je suis tellement sûr que tu ne m'abandonneras pas, que tu seras toujours avec moi, que je donne tout. Même le parallèle est exactement faisable avec le couple, dans, en toute précision, en toute fidélité. On peut exactement reporter la même pensée sur le couple. Quand il y a une garantie, quand il y a une sécurité, quand l'alliance a été bien traitée et bien prise, bien sécurisée, l'investissement devient complet. Le symbole du mariage, oh, je l'ai oublié, il faut m'excuser. L'alliance. L'alliance, on a fait beaucoup de travaux à l'église ces derniers temps et vous savez que ça représente un petit peu un danger. J'ai enlevé mon alliance puis je ne l'ai pas remise. Mais le symbole du mariage, c'est l'alliance. Je parle de l'anneau d'or qu'on met autour du doigt au jour du mariage. Et c'est un très beau symbole. Ce cercle d'or, on va parler de pureté, je suis pas un spécialiste, mais l'or c'est une valeur de une noblesse. Et ça, surtout, ça n'a ni début ni fin. C'est un cercle fermé. Cercle fermé dans lequel le couple est en sécurité. Et au-delà de l'objet en lui-même, le symbole est fort et devant Dieu. L'alliance du mariage est une alliance éternelle et irrévocable. C'est un engagement, une alliance à vie sur laquelle on s'interdit de revenir. On ne reviendra pas. L'alliance n'a pas de début et pas de fin. Lorsqu'elle est contractée, c'est pour toujours. Alors une telle alliance, ça requiert beaucoup de sérieux, beaucoup de maturité. Le mariage, c'est pas pour les gamins, hein. Il faut de la profondeur. Et je réalise, alors que je me penche sur le sujet à la lumière de la Bible, et puis aussi avec l'expérience de la vie et l'accompagnement des uns des autres, je réalise que au jour du mariage, lorsque on passe devant Monsieur le maire, devant aussi Monsieur le pasteur, etc., bien peu de personnes sont conscientes de l'engagement qu'elles sont en train de prendre. Peu de personnes sont vraiment conscientes, autant en termes de potentiel que de responsabilité. Cette alliance-là, elle ne peut pas se vivre, l'alliance selon Dieu, elle ne peut pas se vivre sans Dieu. Un mariage sans Dieu et un mariage avec Dieu, c'est pas pareil du tout. Ça ne se ressemble pas. Ça ne se vit pas de la même manière. Le mariage avec Dieu, c'est la corde à trois fils dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Parce que il y a le brin central de Dieu, de la personne de Dieu, qui va répondre déjà à des besoins auxquels moi ou mon épouse, nous ne pouvons pas répondre réciproquement. Besoin de salut, besoin de pardon, besoin de force pour dominer la nature pécheresse, dominer la convoitise, etc. Ça vient de Dieu. Et une fois que nous avons vaincu le mal qui est en nous, que nous avons soumis notre personne, notre chair, notre ancienne nature à Dieu qui nous a donné cette force, cette capacité, nous pouvons ensemble aussi bien continuer, contribuer au succès de l'alliance. La corde a trois fils. Et il est important dans le mariage de savoir reporter nos attentes sur les personnes qui sont censées y répondre. Ne pas attendre de notre mari ce que Dieu est censé nous donner, il faut aller le chercher devant Dieu ça. Ne pas attendre de notre épouse ce que Dieu est censé nous donner et inversement. Parfois, il y a des épouses qui vont mal, elles sont en manque d'amour, en manque d'affection. Le mari fait des retraits au guichet automatique. Des retraits, des retraits, des retraits, des retraits. Les enfants viennent, ils font des retraits, des retraits, des retraits. Au boulot, les gens viennent, ils font des retraits, des retraits. Et puis, il n'y a personne qui fait de dépôt et le mari, il oublie de faire des dépôts. Alors, au bout d'un moment, c'est refus de paiement. Ça va plus. La machine a l'air d'être cassée, rouge, ça clignote partout. Mon frère, c'est pas le moment d'aller prier. Seigneur, bénis ma femme, elle fait des refus de paiement. Qu'est-ce que c'est pas bien de faire des refus de paiement? C'est à toi, c'est à vous, mon frère, d'aller faire des dépôts, de veiller à son bien-être. Parce que c'est pas Dieu qui est censé répondre à ce besoin-là, c'est vous. Alors, rendons, même en termes d'attente, à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis, pas à César, n'est pas l'empereur de notre épouse, mais à l'homme ce qui est à l'homme, à la femme ce qui est à la femme. Chacun à sa place. Ça donne un équilibre à l'ensemble et puis une capacité à aller de l'avant. La corde à trois fils. Pour Dieu, l'alliance tient. La parole nous laisse penser que l'alliance tient même après le divorce, sauf cas exceptionnel mentionné. 1 Corinthiens 7:10. À ceux qui sont mariés, dit Paul, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Comme si l'alliance, même s'il y a une décision de la suspendre ou quoi, était quand même devant Dieu encore valide. C'est une alliance sans fin pour Dieu. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari parce qu'il y a un lien et que le mari ne répudie pas sa femme. Alors il y a un moment de réflexion qui s'impose avant le mariage. Et c'est aussi le but de la préparation au mariage. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas marié, engagez-vous moralement à faire une préparation au mariage. Il y a trop de fausses idées, il y a trop de mensonges, trop de vides, trop de méconnaissances pour que vous puissiez estimer que c'est faisable comme ça, la fleur au fusil. Engagez-vous, demandez à votre pasteur de vous accompagner dans une préparation au mariage sérieuse pour préparer ces choses-là, pour passer ensemble certains caps et voir si peut-être au milieu des deux qui disent « ouais, on va se marier », il y en a un qui est pas prêt du tout à assumer une alliance centrée sur l'autre ou une alliance éternelle ou une alliance comme ça. C'est important de savoir ce qu'on fait parce que devant Dieu, ça tient pour la vie. Lorsque dans l'Ancien Testament, Exode 22, un homme voyait une jeune fille belle et puis aller vers elle et puis coucher avec elle, même par violence, Dieu dit, cet homme-là, il a perdu sa liberté de choix, c'est terminé, il a pris un engagement. On a pu parler un petit peu des relations sexuelles précipitées vendredi soir. Mais cet homme-là, c'est réglé, il a comme contracté l'alliance, il va prendre cette jeune fille-là pour épouse. Il ne changera pas, c'est celle-là. C'est celle-là. Le problème, c'est que lorsque le projet d'une alliance sans fin est présenté, bien, il y a une revendication humaine qui apparaît pour la conservation de la liberté individuelle. C'est là toute la base du problème. L'esprit un peu rebelle, qui n'est pas l'esprit de Dieu d'ailleurs. L'esprit qui veut conserver sa liberté, son indépendance, son autonomie. Esprit qui peut se manifester dans l'Église et qui porte préjudice à l'Église, et qui peut se manifester dans le couple et qui porte, bien sûr, aussi préjudice au couple. On parle de la liberté de rompre si notre couple ne nous convient plus, notre situation de couple ne nous convient plus. On parle de la liberté de rompre si on a l'opportunité de saisir une seconde chance de refaire ou de réussir sa vie. On parle de conserver la liberté de ne pas engager tout son avenir sans savoir ce que sera demain. Et ça se traduit par l'établissement de clauses suspensives. Voulez-vous prendre cette femme pour épouse, et puis il y a des oui, mais quand il y a une volonté de conserver une liberté individuelle, il y a des oui, puis vous entendez oui, et puis il y a astérisque, double astérisque, triple astérisque, clause numéro 1, voire ci-bas, voire derrière, voire clause suspensive numéro 145. Puis il y a derrière le oui, toutes les clauses dans lesquelles, ou tous les cas de figure dans lesquels, si elle, alors je m'en vais quand même, ou là ça marchera pas, et là c'est fini et tout ça. Mais ce n'est pas ça le mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est une alliance sans fin. Sans fin. Et alors ces clauses suspensives, ces conditions particulières de validation ou d'invalidation de l'alliance vont être comme une rupture dans l'anneau dont nous parlions tout à l'heure. On va briser l'anneau et on va faire une porte. Et puis on va briser l'anneau ici aussi, puis on va faire une autre porte. Comme ça, si jamais dans l'alliance tout se passe pas comme je veux, hop, j'ouvre la porte et je m'envole. Et je retrouve ma liberté personnelle, comme si je n'avais jamais contracté d'alliance. Ces portes sont censés nous garantir une protection personnelle, un retour à la liberté en théorie. Or, voyez-vous, lorsque nous creusons une porte dans l'alliance pour pouvoir en sortir, le motif de la création de cette porte, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le couple, c'est nous. Et lorsque nous formons des portes de sortie, des portes de secours dans l'alliance, nous sommes en train d'essayer de construire un couple avec le refus de se mettre dans une alliance centrée sur l'autre. On va se marier, ok, pour l'alliance ci et l'alliance ça, mais elle sera pas centrée sur toi, elle sera centrée sur moi, c'est pourquoi on va faire des portes pour que si jamais je trouve pas tout ce que j'étais censé trouver, je puisse m'échapper et quand même sauver ce que je peux sauver. Et on revient sur une alliance centrée sur soi-même, qui n'est pas dans le plan de Dieu, bien sûr. Ces portes, elles peuvent être dans nos pensées, elles peuvent être dans nos peurs. Mais les portes les plus ouvertes, celles qui sont les plus menaçantes, sont celles qui peuvent être retranscrites à notre époux-épouse par des paroles. Ça, c'est celles qui ont déjà fait un chemin dans nos pensées, nos cœurs, et qui ont tellement fait de chemin qu'elles commencent à déborder par la bouche, et qui risquent, si on ne fait rien, un jour ou l'autre, en situation de crise ou d'instabilité, qui risquent de se concrétiser même par des actes. Du genre, si tu me trompes, alors je te quitterai. Et on parle pas de bricole, c'est pour ça que je vous dis que on est loin de considérer parfois tout ce que ça veut dire quand on se marie le jour du mariage et qu'on dit oui, je le veux. Si tu me quittes, si tu me trompes, je te quitte. Si tu tombes gravement malade, si tu deviens handicapé moteur ou mental, un AVC ou n'importe quoi, je te quitte. Mais ce sont des choses auxquelles il faut penser, ça. Parce que c'est légitime que ça engendre des peurs, des craintes, des... Mais ce sont des sujets à peser, à penser, parce qu'il faut aborder ces points-là. Si vous pouvez, si vous voulez pouvoir un jour regarder votre époux, votre épouse, et lui dire, tu sais, mon alliance envers toi, c'est une alliance conforme à ce que Dieu veut, c'est une alliance qui est fondée sur le désir de me donner pour toi, qui va être centrée sur toi, une alliance qui est réciproque dans l'idéal, si tu veux bien me donner l'appareil, mais ça va être une alliance sans fin. J'ai réfléchi à tous les cas de figure, si tu me trompes parce que, et puis sachez bien que dans la grande majorité des cas, quand il y a tromperie, infidélité, il n'y a pas qu'un responsable dans le couple pour la chose en question. Si tu tombais gravement malade, handicapé moteur ou mental, j'ai réfléchi, bien, avec l'aide de Dieu, avec ci, avec ça, je serai là, je serai à tes côtés jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle. Si tu abandonnais la foi, si tu devenais bouddhiste ou musulman, c'est très 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 rare qu'on connaît le Seigneur, extrêmement rare. Mais je connais un cas. Sur des centaines, sur des milliers, je connais un cas. Si tu abandonnais la foi, si tu devenais bouddhiste ou musulman, alors là je te quitterais parce que... Si tu devenais alcoolique, si tu développais une dépendance, si tu touchais à la pornographie, si celui que j'aimais quand j'étais adolescent, adolescente ou celle, divorçait et revenait sur le marché du mariage, vous voyez. S'il est à nouveau libre, alors, si tu réponds pas à mes attentes ou à mes besoins, je te quitte. Si tu perds ta beauté ou si ta personnalité vient à changer, je te quitte. Si tu ne réponds pas à mes attentes sur le plan de la vie sexuelle, je te quitte. Si tu trahis ma confiance, et si. Vous voyez, les astérisques, double astérisque, conditions suspensives numéro 1, numéro 2, numéro 3, qui mettent le couple dans l'insécurité. L'expérience nous apprend ceci, c'est que la plupart de ceux qui ont dit de toute façon, au jour du mariage ou dans la préparation au mariage, de toute façon, si ça marche pas, on peut toujours divorcer. Ceux qui sont partis dans le mariage avec cette pensée-là qu'on peut ouvrir une porte dans l'alliance et quitter, l'ont fait. Peu, beaucoup de temps après le mariage. Ils l'ont fait. La porte était ouverte. Et vous savez, les portes, pourquoi c'est fait? C'est fait pour être ouvert. Si vous faites une porte, vous risquez de passer par la porte un jour. Si vous fermez les portes, vous ne passerez pas par ces portes un jour et vous resterez dans l'alliance. Et vous resterez aussi dans tout le plan à l'aide de Dieu et vous aussi bénéficierez de l'engagement. Parce qu'aussi vrai que dans l'image du centenier, lorsque le centenier pouvait avoir des problèmes d'autorité ou de gestion de ceux qui étaient avec lui, tant qu'il restait dans la conformité à la volonté de son supérieur pouvait intervenir pour l'aider, pour l'appuyer, pour l'encourager, pour lui donner un peu de conseil, de sagesse. Et de la même façon, tant que nous restons dans l'alliance selon Dieu, même s'il y a des difficultés, notre autorité suprême, l'autorité suprême de Dieu, Dieu est là pour nous aider, pour répondre à nos besoins et puis faire aller la chose un peu plus loin, faire aller l'alliance un peu plus loin. Si tu me trompes, si tu. Et c'est comme si on était dans la maison, vous savez, et vous êtes, par exemple, monsieur, vous rentrez à la maison un soir et puis vous regardez dans la maison, puis il y a plein de petites choses qui traînent un peu partout par terre. Ce sont des mines antipersonnelles, des vraies mines. Et puis, votre femme vous dit, bienvenue chérie, sois le bienvenu chez toi, mais si tu marches sur une de ces mines, tu es mort. Ah, ben, je suis bien content d'être rentré à la maison ce soir. Quel sentiment de sécurité j'éprouve en rentrant. C'est la même chose. L'alliance du couple, le mariage, est censé procurer une grande sécurité à l'un et à l'autre, une sécurité qui va permettre à l'un et à l'autre de se donner à fond, sans réserve. Mais s'il y a ces conditions suspensives, qui viennent comme des mines, sois tranquille, t'es chez toi, je suis avec toi pour la vie, sauf si ça, et ça, et si tu touches un de ces malheureux sujets, t'es mort. Ben, la sécurité s'envole, et la volonté de s'impliquer s'envole aussi. Et puis, le besoin de sécurité existe encore et peut-être la personne va commencer à chercher à droite à gauche quelqu'un qui est prêt à un engagement un peu plus profond que ça. Il n'y a pas d'intérêt pour qui que ce soit à refuser de sécuriser son alliance en lui donnant la vraie dimension qu'elle est censée avoir. Être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. c'est plus que être fidèle tant que tu fais pas ci et tu fais pas ça, et si tu deviens ci et si tu deviens ça. Alors il y a un cheminement à faire, et c'est notre conclusion pour aujourd'hui. Un cheminement à faire qui consiste à fermer les portes. Et ça, c'est biblique. La Bible ne nous laisse pas de portes ouvertes. Romains 7, 2. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Ça a l'air d'être assez catégorique. Et il y a des cas de figure particuliers, il y a des choses très sensibles. Et pour les cas très particuliers, vous avez un pasteur que vous pouvez consulter, avec qui vous pouvez parler. Mais là, on parle de la grande généralité des cas. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Car je hais la répudiation, le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La seule raison pour laquelle Dieu a ouvert la porte du divorce à l'être humain, c'est la dureté de son cœur. Matthieu 19, 8, Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, dans l'idéal de Dieu, il n'en était pas ainsi. Or, nous qui sommes venus entre les mains de Dieu, qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus dominés par le péché. Notre dureté naturelle peut être dominée par la douceur de l'esprit. Donc, la seule, raison pour laquelle il était permis d'avoir une porte, nous a été fermée à nous, le jour où nous avons été libérés du péché, parce que nous n'avons plus un cœur dur, mais nous avons la capacité de faire preuve de souplesse, de domination de la chair par l'esprit, et puis d'aller de l'avant. Donc, c'est terminé. C'est terminé. Marc 17, l'homme quittera son père et sa mère, et puis la conclusion, nous l'avons lu tout à l'heure, que l'homme ne sépare pas. Il n'y a pas d'astérisque là non plus dans la Bible. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pas d'exception, même dans des passages un peu interpellants comme Marc 10, 29, où il est écrit, les paroles de Jésus sont citées ainsi, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, regardez bien la liste avec moi, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans la liste de tout ce qu'on peut quitter pour Dieu, il n'y a pas l'époux ou l'épouse. Pas cité. Et c'est intéressant aussi de considérer que le terme employé pour parler des enfants, l'hébreu fait des grandes nuances. Nous, on parle des enfants. T'as un enfant? Oui, il a quel âge? 2 ans? T'as un enfant? Oui, il a quel âge? 45 ans? C'est enfant? T'as un fils? T'as un enfant? Oui, oui. C'est exactement pareil. Mais dans les termes employés hébreux, aussi dans les termes grecs, il y a des termes particuliers pour les tranches d'âge. 0 à 3 ans, 3 à 12 ans, 12 à, et plus. Et il y a des termes particuliers, et le terme qui est employé là parle de l'enfant accompli, déjà adulte, qui a quitté le nid, qui a pris son envol. Donc il n'est jamais demandé, Dieu ne nous demande jamais pour lui ou pour l'évangile de quitter notre femme ou notre époux, ou de quitter les enfants dont nous avons la responsabilité légale et dont nous sommes les éducateurs. Jamais. Aucune exception dans toute la parole par rapport à ces cas-là. Et je suis persuadé que s'il y a des portes dans nos cœurs, bien dans la prière, le Seigneur saura nous les indiquer. Et dans la prière aussi, le Seigneur saura nous donner la foi, la paix pour les fermer, afin que nous puissions nous aussi sécuriser notre alliance et que, au bout d'un moment, eh bien, nous puissions dire à notre époux, à notre épouse, tu sais, j'ai réfléchi à beaucoup de choses et aujourd'hui, il n'y a plus de conditions suspensives à notre alliance. Elle est sécurisée, tu peux compter sur moi jusqu'au bout. Il peut arriver diverses choses, je ne les souhaite pas. Certaines, je les redoute, mais j'ai décidé, devant Dieu, avec son aide, et etc., que, quoi qu'il arrive, mon alliance envers toi est et sera une alliance sans fin. Et ça va vous faire ressembler un peu plus à votre Seigneur, à votre Père Céleste, de qui il est dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Si nous changeons, lui ne change pas. Ça, c'est l'alliance selon Dieu. Alors, comment concrétiser ça? Parce que vous savez, la symbolique, ça a sa place, je pense. Et aussi vrai que les peuples anciens ou orientaux ont attaché et attachent une place, une valeur importante au symbole, une grande valeur au symbole. Nous, on est plus sur la paperasse, la déclaration écrite, l'attestation, voilà. Mais les symboles, pas trop. Et ça peut être bien d'avoir dans la maison un symbole de votre alliance. des choses qui se faisaient, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, c'était une alliance de sel. Il y avait deux parties qui venaient, qui contractaient une alliance ensemble pour une chose ou pour une autre. Là, on parle du mariage. Et puis, une fois que l'alliance était scellée, les deux parties prenaient une poignée de sel, chacun de son côté. Ils prenaient un récipient commun, et puis communément, ils versaient ensemble le sel dans le récipient, avec une incapacité, puisque c'était mélangé ensuite, une incapacité pour l'un ou pour l'autre de dire « Non, je cesse, je romps l'alliance, je récupère mes grains de sel ». Ils ont fait en sorte de donner leur parole, en sachant qu'ils avaient l'incapacité absolue de reprendre leur parole, aussi vrai qu'ils n'étaient pas capables de faire la différence entre leur grain de sel et ceux de l'autre. Et c'est bien. C'est bien de pouvoir prendre un jour, une fois qu'on a fait cette démarche dont nous parlions de sécurisation de l'alliance, prendre un jour un temps entre époux pour dire « J'ai réfléchi à tout. J'ai eu peur de ci, j'ai eu peur de ça. » Ça permet de se connaître aussi. « J'ai eu peur de ça, j'ai pensé à ci. » Mais après avoir tout considéré, et puis après avoir considéré aussi ta capacité de t'engager toi envers moi, ben, j'ai décidé de fermer toutes les portes et je suis prêt à faire une alliance irrévocable avec toi. Ça va être une alliance sans fin. On s'est dit oui devant monsieur le maire et devant le pasteur et tout ça, mais on comprenait pas tout à fait ce qu'on disait. Là aujourd'hui, je sais ce que je dis et comptant sur la grâce de Dieu et comprenant sa volonté pour nous et puis le bénéfice qu'on a à tirer d'une alliance sécurisée et éternelle, eh bien, je m'engage envers toi pour toujours. Et puis vous allez pouvoir peut-être mélanger du sel, vous allez trouver quelque chose qui vous ressemble, puis mélanger des choses que vous pouvez pas différencier par la suite, mettre ça peut-être dans un petit vase, dans un endroit, mettre ça dans une pièce de vie de votre maison, et puis à chaque fois vous allez passer devant, vous allez dire ça c'est notre alliance, on est en alliance tous les deux, vous allez être fâchés, vous allez passer à côté du vase et dire on est en alliance, il y a rien qui doit passer entre nous, j'ai donné ma parole, on va aller jusqu'au bout, et c'est un symbole de l'alliance que vous aurez pu contracter, vous aurez comme ça une alliance à votre doigt, et ça c'est pour tout le monde. Mais vous aurez aussi un vase avec du sel, du riz, du sable, je sais pas trop quoi, une alliance qui vous ressemble à vous, que vous avez prise l'un envers l'autre, et qui est un symbole pour vous, concernant la profondeur de l'engagement que vous avez contracté envers l'autre personne devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.